Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
D'abord, c'est le sommet entre Justin Trudeau et le premier ministre Legault aujourd'hui. Au menu, évidemment, tout le dossier de l'immigration et le dossier de la santé. Et c'est un face-à-face ou un sommet, là, appelez ça comme vous voulez, mais qui est important parce que ce sont des enjeux. Et hier, je regardais la période de questions à l'Assemblée nationale et M. Legault a dit, et c'est important, si je suis pas capable de m'entendre avec Justin Trudeau, j'ai des options. Le Parti québécois a dit, est-ce que vous allez faire un référendum? Quelles sont véritablement les stratégies? Évidemment, le premier ministre, c'est pas pour déballer la veille ce qu'il va faire après la rencontre avec M. Trudeau. Mais quand François Legault attaque le Parti québécois, c'est quand même particulier. Un ancien souverainiste qui dit que le PQ peut pas en obtenir plus que la CAQ dans le cadre de négociations avec Ottawa parce qu'on sait ce que le PQ veut. C'est la souveraineté, la séparation. Venant du Parti libéral, on comprend, mais venant de François Legault, c'est sûr que ça sonne un peu bizarre. Donc, le dossier de l'immigration. Monsieur Legault veut tous les pouvoirs. Évidemment, concernant les réfugiés, ce serait étonnant, mais il veut réduire la présence de réfugiés au Québec. Un, pour ce qui est de la réunification des familles, on sait que le fédéral pousse fort. Et Québec est un peu beaucoup responsable de ces problèmes. On a émis trop de certificats, puis on a fait des promesses aux gens. Et là, c'est l'attente pour être capable de faire venir un frère, une sœur, un conjoint. Une entente qui, sur le plan strictement humain, n'a pas de bon sens. Donc, ce sont des procédures lourdes. Mais est-ce que le Québec doit avoir le plein contrôle en matière d'immigration? Je pense que oui. Mais ça vient avec des obligations de résultats. Parce que le fédéral, puis on le voit en santé, là, ils sont excellents pour dresser des grands principes. Un, de pas toujours accompagner ces grands principes avec le financement qui est requis. On le voit en santé. Puis de créer des programmes, régime dentaire, régime de médicaments à travers le pays, une grosse patente bureaucratique. Et t'as même pas d'entente avec les dentistes québécois, puis ça entre graduellement en vigueur. Le ministre Jean-Yves Duclos sera avec nous ce matin. Mais on peut pas dire que la machine fédérale est d'une efficacité. Je regarde strictement l'assurance emploi. Des gens qui perdent leur travail, qui ont pas des économies pour les 10 prochaines années et qui attendent des mois et des mois avant d'obtenir le premier montant auquel ils ont droit. Et ils ont contribué pour ça. Et pour François Legault, c'est une journée importante. C'est ce qu'on appelle une journée pour chef de gouvernement, là. Parce qu'il doit dire à son vis-à-vis fédéral que le financement en santé n'est pas adéquat, le financement en immigration n'est pas adéquat et qu'il veut les pleins pouvoirs. Il ne peut pas sortir de là perdant. Alors, quelle sera la réponse de M. Trudeau? Donc, on verra ça. Maintenant, le dossier de Jacques Delisle. Il y a quelque chose qui est mystérieux dans ça. Si on résume, là, M. Delisle a passé quelques heures en prison pour compléter sa peine de presque 9 ans de prison. Il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme par un jury. La Cour d'appel a maintenu, 3 juges de la Cour d'appel ont maintenu sa condamnation. 9 juges de la Cour suprême ont dit la même chose. Et là arrive le ministre de la Justice de l'époque, David Lametti, qui demande à un groupe de revoir tout ça. Enquête de Radio-Canada obtient le document, et dans ce document, on s'aperçoit qu'il n'y a eu aucune erreur judiciaire de commise. Et pourtant, M. Lametti se sert de son pouvoir de ministre, un pouvoir qu'on utilise au compte-gouttes, rarement, et décide de dire « Je retourne ça devant la Cour suprême. » Mais comment peut-il ordonner la reprise des procédures alors qu'il n'y a absolument rien qui indique une erreur judiciaire? Et dans ce rapport, on blâme le juge de Lille, qui est pourtant un juge, de ne pas avoir témoigné dans son procès en disant qu'il avait eu plusieurs opportunités de donner sa version des faits. Et hier, chose encore étonnante, tu t'aperçois que les procureurs arrivent avec deux versions, deux histoires pour expliquer la mort de sa femme. Sa femme qui voulait mourir, on peut le penser, qui avait eu un AVC. Il avait une arme illégale en sa possession. Il a menti aux policiers. Il a amené l'arme près d'elle et elle l'aurait utilisée. La couronne ne croit pas ça. Normalement, quand vous arrivez avec une entente sur un plaidoyer, c'est que les parties ont la même version des faits. Mais là, c'est pas ça. Et je voyais le procureur de Lille, Jacques Larochelle, qui joue sur les mots en disant que c'est un homicide. Mais tu sais, il a plaidé coupable à une chose, puis il a été condamné pour autre chose. C'est très bizarre. Et j'insiste sur le cas de l'ex-ministre de la Justice. Et je m'excuse, là, mais il y a des questions à poser à Lametti, là. Sur quelle base il a décidé de faire ça? Alors qu'il n'y avait aucune erreur de signaler dans le document. Sérieusement, ça... Je dirais pas, puis je suis pas le genre à utiliser le mot, là, scandale, mais il y a quelque chose qui marche pas dans la décision qui a été rendue par le juge Lametti. Maintenant, le Journal de Montréal nous dit que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a eu des menaces de mort. On sait que la haine et les menaces se sont multipliées dans les dernières années. C'était très vrai durant la pandémie. Ça l'est encore. Des gens qui réalisent pas la portée des mots. Donc, M. Plamondon a été, Paul Saint-Pierre Plamondon, a été menacé par un individu qui exigeait qu'il prenne l'engagement d'expulser tous les immigrants de couleur sur le territoire québécois. Et que s'il faisait pas, puis il lui donnait un délai très précis, il était pour l'exterminer ainsi que sa famille. Tu vas forcer, je cite, tous les immigrés de couleur à un rapatriement forcé vers leur nation. C'est non négociable, un délai de 30 jours. Zéro immigrant au Québec, zéro, dit-il. La Sûreté du Québec, bien sûr, a enquêté là-dessus. Ils ont trouvé le gars en question. Il a été arrêté. On n'a pas de détails sur son identité. Et il prétendait faire partie d'un groupe également qui était, disons, voué à des luttes contre les immigrants qui menacent le Québec. Et je comprends là, que ça a secoué Paul Saint-Pierre Plamondon, comme ça secoue n'importe qui reçoit des menaces. Et il y en a beaucoup. Et souvent, il y a des gens qui se font arrêter par la police puis qui n'ont pas l'air à comprendre ce qu'ils ont fait, là. Puis que la réponse, ça peut pas être c'est une blague. Je me suis exprimé, j'étais pacté, j'étais frustré. Là, tu dis, je suis en politique, puis c'est vrai pour les libéraux, c'est vrai pour Québec solidaire, c'est vrai pour la CAQ. Tu décides de t'engager, que tu te fasses critiquer, OK, mais menacé de mort, te promener sur la rue, puis tu sais pas s'il y a pas un fou qui t'attend avec, tu sais, non. Et on le sait, là, que on l'a vu avec les élus municipaux, la haine, même entre élus. Mais l'espèce de réplique citoyenne qui dépasse l'entendement puis qui surtout dépasse les bornes. Dans les autres nouvelles aussi, la presse nous dit ce matin qu'il y a à peine une école sur 10 qui a un taux de vaccination suffisant. Et le taux de vaccination, c'est 95%. Et là, la santé publique qui envisage d'organiser des séances de vaccination dans les écoles. Quand vous dites qu'il y a seulement 7 % des 3000 écoles qui ont un taux de 95 %, c'est assez inquiétant. Puis c'est vrai beaucoup là, dans les écoles de Montréal-Laval. Il y a des enjeux culturels. Pas tous des anti-vax, mais des gens qui savent pas, ont oublié, sont pas au courant ou en tout cas hésitent à se faire vacciner. Et donc, dans plusieurs écoles de Montréal, la couverture vaccinale des élèves est tellement faible qu'on se retrouve avec près de la moitié des écoles primaires qui ont un taux de 75 % et moins. Je vais vous donner deux exemples ce matin où les députés de l'Assemblée nationale l'ont échappé. Et dans le deuxième cas, ce sera l'ensemble des députés. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le premier cas, c'est tout le dossier des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. La ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, a dit « c'est trop cher ». Elle dit « pardon ». Oui, la Société d'habitation du Québec va revoir ça. Là, ça peut pas être 900 000 la porte. Je ferais remarquer que les maisons des aînés, c'est 900 000 la porte. Puis à la CAQ, on n'a pas l'air d'avoir trouvé ça trop cher. Mais mettons que c'est cher. Tu dis « OK, mais qu'est-ce que ça comprend? » Ça comprend des aires communes. Ça comprend, mais vous donner un exemple. Là. La société d'habitation exige qu'il y ait entrée de laveuse et sécheuse dans chacune des chambres. Pourquoi? Parce que si on décide de convertir cette maison en logement, il faut qu'il y ait ces dispositions. Avez-vous une entrée de laveuse et sécheuse dans chacune de vos chambres? Ben non. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que on aurait une buanderie, ça ferait l'affaire? Oui. Ça, c'est la première erreur, la façon de regarder ça. Je disais les aires communes, les systèmes de sécurité, c'est un refuge pour femmes battues ou menacées. Il y a des dépenses qui sont normales. Puis on a le droit de discuter, puis on a le droit de négocier. La ministre dit « c'est trop cher ». C'est comme si des femmes menacées ou battues, c'est une dépense, puis que 900 000, c'est trop cher. Savez-vous ce qui s'est passé après? Ils ont négocié. Ils se sont retrouvés à la même table. Et là, semble-t-il que le dossier avance. Avais-tu besoin d'aller dire des niaiseries comme ça sur la place publique? Cette espèce de manque de sensibilité. Ça, c'est la première erreur. La deuxième, les députés de l'Assemblée nationale ont voté une motion pour dénoncer le choix de mots utilisés dans un jugement de la Cour suprême. C'est une affaire d'agression sexuelle. Et c'est l'expression « personne ayant un vagin » qui a fait sursauter. Et là, je lis dans la presse ce matin la professeure de droit Anne-Marie Boisvert puis d'autres juristes qui s'expriment en disant « l'Assemblée nationale l'a échappé ». Tu sais, à force de vouloir être politiquement correct, ne pas rendre la femme invisible dans l'espace public, tu votes des motions qui sont basées sur des faits qui ne sont pas démontrés. Et c'est tout à fait le contraire. Dans le fameux jugement de la Cour suprême, d'abord, l'agresseur, la décision a été maintenue. Le mot « femme » est utilisé je ne sais plus combien de fois. Cette expression de personne ayant un vagin s'est utilisée une fois. Pourquoi? C'est la description de l'agression qui était contestée. La victime disait avoir senti une pénétration. Et là, on a essayé de jouer, oui, mais est-ce qu'elle sait vraiment, est-ce qu'elle pense que c'est ça, ça aurait pu être un autre geste, etc., etc. Donc, et la Cour suprême a l'habitude de faire attention aux mots. Et c'était pour illustrer la nature de l'accusation, ce que la victime disait. C'était pas une attaque contre les femmes, c'était pas de faire disparaître les femmes. Et la meilleure, c'est Québec solidaire qui dit, on s'est peut-être trompé sur les faits, mais nous autres, on est pour le principe de pas faire disparaître les femmes. Ça veut-tu dire que tu votes sur n'importe quelle motion qui dit n'importe quoi? Ben hier, ils ont fait ça en chorale à l'Assemblée nationale. Le dossier de l'habitation. Je pense sérieusement que à Montréal, on est pas mal dans le trouble. D'abord, on le sait, il y a une crise du logement, c'est un enjeu. Et là, Valérie Plante et Projet Montréal ont imposé la règle 20-20-20 aux promoteurs en disant, vous voulez construire à Montréal, ben vous allez construire des logements sociaux, des logements abordables, des logements pour les familles. Il faut que ça représente 60% en gros de votre projet. Puis si vous le faites pas, puis vous voulez pas le faire, ben vous allez compenser financièrement. Les montants, en passant, sont ridicules, sont pas très élevés pour les promoteurs. Puis comme c'est pas très attrayant dans un contexte aussi de taux d'intérêt élevé, ben là, vous vous retrouvez avec des chantiers qui lèvent pas, puis des projets qui ne voient pas le jour. En raison aussi des obstacles assez lourds, si on veut, de la bureaucratie. Donc hier, M. Doré, le responsable du dossier habitation à la Ville, sort en disant « là, jusqu'en 2026, d'autres ont fait sauter les règles contraignantes. Cette fameuse règle là, du 20-20-20. Promoteurs vont pouvoir construire ce qu'ils ont envie de construire, puis des logements, etc. » Mais on leur dit, là, c'est pour une période de 2 ans seulement, après quoi on va arrêter ça. Puis en même temps, là, Devoir ce matin qui dit que la Ville de Montréal autorise et finance l'abattage de 1323 arbres, des boisés qui seront détruits pour un développement qui sert d'habitat à une espèce menacée. Fait qu'ils sont toujours coincés par le discours qui est le leur, évidemment, protection des boisés, des espaces, de l'environnement, puis le besoin de construire. Et est-ce qu'il y a beaucoup de promoteurs qui sont intéressés à construire à Montréal? Il y en a. Puis après ça, ce sera l'enjeu de la densité. Puis on le voit dans le Grand Montréal, puis j'inclus Longueuil là-dedans et Laval, l'idée de construire en hauteur, d'avoir plus de monde au pied carré. Pourquoi? Parce qu'on veut plus de bungalows avec des terrains puis des cours arrière, des maisons individuelles. Ce qui fait que dans des quartiers, ben vous allez augmenter le nombre de citoyens parce qu'il y a des maisons qui sont vendues, qui sont converties, il y a des nouvelles constructions. Puis là, on veut du 6 logements, on veut des immeubles où on loge plus de personnes. Puis on le voit, Granby, par exemple, je peux nommer à peu près toutes les villes. C'est ça le plan d'avenir. Puis je peux vous dire qu'il y a des citoyens qui n'aiment pas ça. C'est plus de circulation sur des rues, c'est plus de bruit, c'est plus de mouvement. Puis quand tu habites, par exemple, à Saint-Hubert, dans un quartier résidentiel depuis des années, ben ça ne te tente pas nécessairement qu'il y ait autant de va-et-vient. Juste vous dire aussi, sur la scène internationale, Jean-François Lépine sera avec nous, que le personnel, en partie, là, de l'ambassade du Canada à Port-au-Prince a été évacué. On les a déplacés vers la République dominicaine en raison de la violence. Il y avait quand même des enjeux de sécurité importants. Et dans les dernières heures, encore une fois, les gangs de rue armés ont fait la pluie et le beau temps dans la capitale, menacent le futur gouvernement de coalition. Il n'y a pas de fumée blanche qui émane d'Haïti. Alors, vous avez un premier ministre qui est quasi en exil, qui promet de démissionner, puis un gouvernement qui n'est même pas encore formé. On regardera également la situation à Gaza. Au moins 20 personnes ont été tuées, des gens qui attendaient pour une aide alimentaire. Hamas et les Palestiniens blâment Israël. Israël dit on n'a rien à voir là-dedans. Et pour l'instant, les preuves sont floues. Alors, mais il y a 20 morts et une centaine de blessés. Des gens qui ont faim et qui attendaient donc pour obtenir de la nourriture. Et aussi, ben, c'est le gros week-end de Vladimir Poutine qui va évidemment être réélu. Et comment il a progressivement et brutalement éliminé l'opposition pour que ce soit un couronnement et qu'il devienne espèce de président à vie de la Russie aussi. Avec Jean-François, on va en parler ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On le disait plus tôt, c'est une rencontre au sommet entre les deux premiers ministres aujourd'hui, François Legault, Justin Trudeau. Il y a deux dossiers très chauds, celui de l'immigration et celui de la santé. Je vais en parler ce matin avec Jean-Yves Duclos, qui est le ministre des Services publics et approvisionnement du Canada. Monsieur Duclos, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Monsieur Duclos, il y a donc beaucoup de sujets ce matin. Je vais commencer par le volet santé pour essayer de comprendre exactement où vous allez du côté fédéral. Sauf erreur, il y a un montant de 1 milliard qui est dû au Québec et ce qu'on comprend de les branches, c'est que s'il n'y a pas d'entente réglée, l'argent va disparaître le 31 mars dans quelques jours. C'est vrai ou pas?
Ben, en fait, c'est vrai que depuis un an, le ministre de la Santé, que je ne suis plus, travaille avec le gouvernement du Québec pour s'assurer que cet argent sert à atteindre les mêmes objectifs que nous avons avec le gouvernement du Québec, c'est-à-dire à améliorer l'accès à des soins de santé primaires dans beaucoup de cas, les gens qui ont des difficultés à avoir accès à un médecin de famille, à une équipe de médecine familiale, appuyer les travailleurs de la santé et faire en sorte que notre système de santé soit plus moderne que celui qu'on a présentement, qui facilite le travail d'équipe par le partage d'informations et de données, entre autres choses.
OK, mais si tout ça est très noble, mais pourquoi le chèque n'est pas rentré?
Ben, c'est parce que ces discussions prennent toujours du temps, parce que ça prend à la fin une bonne entente qui sert les besoins des gens qui sont les plus affectés par ces transferts, c'est-à-dire les patients et les travailleurs. Donc, j'imagine que les conversations vont porter là-dessus encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à bien travailler ensemble? On a tous les mêmes objectifs et le gouvernement canadien va investir au cours des prochaines années 200 milliards de dollars additionnels aux transferts déjà existants, donc des montants substantiels que le gouvernement du Québec pourra utiliser pour aider les patients et les travailleurs.
OK, mais vous avez été ministre de la Santé, M. Duclos. Depuis Paul Martin, le pourcentage des dépenses fédérales en santé, des transferts en santé aux provinces a diminué. C'était à peu près la moitié à une époque. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, disait il y a deux ans que c'était à peu près 22-23%. Donc, vous avez des grands principes, vous annoncez des grands programmes, mais vous payez pas.
Bon, sous les chiffres, il y a effectivement une guerre. Dans les années 60, le 50% qui s'appliquait seulement sur les soins hospitaliers. Par la suite, la couverture du gouvernement canadien s'est étendue sur tous les soins de santé, y compris les soins de santé donnés dans des cliniques de médecine familiale, ce qui a fait en sorte que le 50% est passé à 35%. Et même en 2024, quand on tient compte de tous les transferts, on est toujours à 35%. En fait, on l'était un petit peu moins que 35% l'année passée, mais avec les transferts additionnels qui sont maintenant accordés aux provinces, on rejoint à nouveau le 35% qui était la norme dans les années 90.
OK, mais il y a un vieillissement de la population. Il y a des demandes qui sont importantes en termes de ressources. L'impression qu'on a du fédéral, c'est que vous décrétez des principes, vous dites voici comment ça doit marcher, voici les normes nationales, mais que le financement ne suit pas.
Ben, les principes sont les mêmes que tous les gouvernements défendent, y compris le gouvernement du Québec, qui fait par ailleurs un bon travail de collaboration avec le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, depuis déjà plusieurs années. Quand j'étais là, M. Dubé et moi, on a travaillé très bien pour, dans le contexte très difficile de la COVID. Il y a eu des transferts majeurs qui ont été effectués par le gouvernement canadien, les équipements de protection individuelle, les vaccins, les tests, tout ça a été fourni par le gouvernement canadien et on continue dans cet esprit de collaboration parce qu'on sait qu'on sert les mêmes personnes avec les mêmes dollars. Okay. Peu importe les dollars, ils viennent toujours des mêmes poches à la fin.
Oui, je comprends. Mais là, on parle d'une pandémie, d'une situation de crise. Parlons de ces deux programmes, l'assurance médicaments et les soins dentaires. Je commence par les soins dentaires. C'est un programme qui va entrer en vigueur graduellement, vrai?
Oui, c'est en train de se mettre en place. Ça va prendre un certain temps parce que ça va prendre jusqu'en 2025 avant que l'ensemble des Québécois qui nous écoutent présentement puissent éventuellement être admissibles à ce nouveau régime canadien de soins dentaires.
OK. Je vais vous poser une question technique, mais qui est importante pour les gens qui écoutent. Quand je serai touché par cette mesure, quand ça va concerner mon groupe d'âge, quand je vais prendre rendez-vous chez le dentiste, est-ce que c'est le dentiste qui va vous faire la réclamation ou je paye de ma poche et après ça, je m'adresse à vous pour la réclamation?
Ça, c'est une très bonne question. Je pense que vous avez eu la chance de parler à M. Tremblay au début de la semaine, qui est le président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec. Pour vous donner une idée très claire, là, pour que tout le monde comprenne, si vous allez chez le dentiste au cours des prochains mois, des prochaines années, après être devenu admissible au régime canadien de soins dentaires, ça va fonctionner comme dans le cas d'une assurance privée. Si le remboursement, par exemple, pour l'examen que vous allez recevoir est de 45 $ par le gouvernement fédéral, mais que le dentiste est encouragé à charger 50 $ par son association, le 5 $ de différence, qu'on appelle le solde, pourrait et pourra être chargé par le dentiste qui va vous recevoir. Donc, le solde pourra toujours être demandé par le dentiste, mais le remboursement du gouvernement canadien, lui, il vient directement dans les poches du dentiste sans qu'il soit déboursé par le patient.
OK. Ils n'ont pas l'air à faire la même lecture que vous. Les dentistes n'ont pas l'air à penser ça. Il y a beaucoup de dentistes qui ont l'impression que c'est pas vrai qu'ils vont s'embarquer dans ce volet et que les gens vont payer puis que les gens, après ça, iront réclamer au gouvernement.
Ben, un, c'est normal qu'il y ait beaucoup de questions qui se posent parce que c'est un régime qui est en train d'être mis en place. Deux, il y a un petit peu de désinformation dans certains secteurs et c'est pas peut-être une question de blâme, mais c'est une question d'accès à la bonne information. Et trois, ce que je vous dis, c'est exactement ça. Si votre examen vous coûte 50 $, vous allez chez le dentiste, le gouvernement canadien rembourse 45 $ directement au dentiste. Le 5 $ de différence, le dentiste pourra vous le charger comme ça se passe déjà maintenant pour ceux qui ont des assurances privées. Les gens le savent, il y a toujours à peu près un 20 % des frais de dentiste qui sont chargés directement aux patients.
OK. Avez-vous négocié les tarifs avec les dentistes?
C'est un régime public et par conséquent, l'admissibilité est déterminée par le gouvernement, la couverture des soins est aussi déterminée par le gouvernement et la compensation versée par le gouvernement est aussi déterminée par le gouvernement. Ce ne sont pas les associations de dentistes qui dictent au gouvernement canadien quel est le taux de rémunération. Ceci étant dit, dans la très, très grande majorité des cas, comme le Dr Tremblay vous l'a dit au début de la semaine, la rémunération remboursée par le gouvernement canadien est très proche de la rémunération demandée par les associations
de dentistes. C'est pas tout à fait ça. Non, ben c'est pas tout à fait ça qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était loin de ce que les dentistes anticipaient. Et il n'y a aucune obligation aux dentistes d'adhérer à votre programme.
Non, il n'y a pas d'obligation, mais comme le docteur Tremblay vous disait aussi au début de la semaine, on s'attend à ce que la très grande majorité des dentistes, des hygiénistes et des denturologues au Québec et ailleurs au pays adhèrent au régime. La raison, c'est évidemment c'est bon pour leurs affaires, mais ce qui est plus important, c'est que c'est bon parce qu'ils savent très bien qu'il y a trop de gens qu'ils ne rencontrent pas, qui auraient besoin d'aller les consulter, qui retardent leurs soins dentaires, qui se retrouvent à l'urgence, en salle d'opération, parce qu'ils n'ont pas eu accès des soins de prévention en matière de soins dentaires. Les dentistes et les hygiénistes se savent plus que nous, et c'est pour ça qu'ils voient ça très, très favorable. Le fait que ce programme va aider la famille, les familles de la classe moyenne et à plus faible revenu à aller chercher des soins dentaires qu'ils n'iraient pas chercher autrement parce qu'ils n'ont pas les revenus ou l'assurance privée pour le faire.
OK. Mais c'est pas ça que le Dr Tremblay m'a dit. Je sens, puis pas je suis là, je sais et je sens de beaucoup de dentistes qu'un, ils considèrent que la proposition qui est sur la table n'est pas une proposition intéressante sur le plan financier. Que deuxièmement, ils appréhendent, appelons ça la bureaucratie fédérale. Vous avez une série de gâchis autour de vous, là. On n'a qu'à penser à l'assurance-emploi, on n'a qu'à penser à toute la gestion des passeports. Vous êtes bon dans les principes, mais vous n'êtes pas bien bon pour opérer des systèmes.
Bien, tout d'abord, sur la question de la rémunération, il y a 90 % des soins couverts qui vont être remboursés à plus que 80 %. En d'autres mots, il y a 4 $ sur 5 de la rémunération demandée par les dentistes. Dans 90 % des cas, 4 $ sur 5 et plus vont être remboursés par le gouvernement canadien. Donc, c'est très proche de la grille tarifaire. Ce n'est pas exactement, effectivement, toujours la grille tarifaire, pour les raisons qu'on a déjà discutées. La deuxième chose, c'est que c'est normal que les dentistes et les patients, il y en a presque 9 millions qui vont être admissibles au Canada à terme en 2025. En passant, M. Arcan, il y a 1,3 million d'aînés qui ont déjà demandé avec succès leur admissibilité. Il y en a plus que le tiers de ces aînés qui sont au Québec, donc plusieurs dizaines de milliers qui nous écoutent présentement. Il y a de plus d'aînés d'ailleurs qui viennent du Québec qu'en Ontario, ce qui dit qu'il y a un besoin apparemment plus important encore au Québec qu'en Ontario de ce régime de soins dentaires. Donc, c'est un régime qui est de l'avant. C'est la première fois d'histoire que ça a lieu. Les gens ont une tonne de questions. C'est tout à fait normal. Ils peuvent appeler leur bureau de circonscription des députés fédéraux. Ils peuvent aller sur Service Canada. Pour l'instant, ça se passe très bien. L'inscription va très bien, mais c'est sûr que ce ne sera pas parfait. Il va y avoir au cours des prochaines semaines et des prochains mois une tonne de questions qui vont se poser. Et à chaque fois, les gens seront... ce sera légitime que les gens posent ces questions et trouvent les bonnes réponses.
OK. Régime d'assurance médicaments. Il y a déjà un régime au Québec d'assurance médicaments. Qu'est-ce que vous apportez de plus?
C'est une couverture qui est à la fois plus large et plus efficace, plus large pour les soins qui sont couverts. Pour l'instant, on parle des soins contraceptifs et on parle des soins pour le diabète parce que au Québec comme ailleurs, la couverture est parfois incomplète et n'est pas complète en matière de rémunération, en fait de compensation pour l'achat des médicaments nécessaires pour la contraception ou pour le diabète.
Mais...
il y a au Québec des gens qui pensent qu'on peut avoir un régime plus universel qui va aider davantage les gens tout en réduisant les coûts en même temps. Quand on achète les médicaments en gros, quand tout le monde se met ensemble, on va chercher généralement des meilleurs prix. Et on sait qu'au pays, une des sources importantes de la croissance des dépenses en santé, c'est la croissance du prix des médicaments.
Ben, je vous dirais que là-dessus, ils n'ont pas attendu après vous. Les provinces ont réussi. C'était à l'époque de Gaétan Barrette à faire baisser le prix des médicaments pour obtenir le meilleur prix. Mais je veux juste comprendre, là, quelqu'un qui vous écoute ce matin qui est sur le régime d'assurance médicaments publics, là, je parle pas d'assurance privée, est-ce qu'il va se retrouver sur le régime fédéral ou si cette couverture additionnelle va être fournie par le régime québécois?
Mais la réponse à cette question va dépendre des négociations avec les provinces et le gouvernement du Québec. Tout ça, c'est mis en place pour compléter. C'est pas mis en place pour empiéter sur les compétences et les programmes déjà existants et pour restreindre les provinces dans leur champ d'action. C'est pour compléter.
Mais êtes-vous d'accord avec le principe du retrait du fédéral avec compensation financière pour le Québec?
Mais c'est sûr, régulièrement.
Non, mais dans ce cas-là, là, dans le cas de l'assurance médicaments.
Ben, ce n'est pas à moi à décider, évidemment. Je ne suis pas le ministre de la Santé, mais c'est sûr que ces conversations vont avoir lieu. Pour l'instant, on a l'étape d'un projet de loi à la Chambre des communes. Donc, on verra de quelle manière ce projet de loi va évoluer, s'il y aura des amendements. Et une fois que ces amendements et ces projets de loi auront été évalués, bien, ce sera aux provinces et au gouvernement canadien de travailler ensemble pour mettre tout ça en place.
OK, mais ça fait beaucoup de dossiers où ça marche pas, là. Et je regarde l'immigration, là. Il y aura cette rencontre ce matin, là. Mais c'est clair que sur les demandeurs d'asile, on s'entend pas. Sur les montants à payer en compensation par rapport au nombre d'immigrants, toutes catégories confondues qui débarquent. Sur le programme de réunification des familles, il y a une pression qui est mise par le fédéral sur Québec. On peut pas dire que la coopération est optimale, là.
Bien, sur l'assurance dentaire en particulier, M. Arcan, ça va très bien. Puis c'est positif pour tout le monde. Évidemment, on peut toujours trouver des problèmes, puis il y en a toujours des problèmes à régler, mais c'est positif pour tout le monde. C'est positif pour les patients, les 400 ou 500 000 aînés au Québec se sont déjà inscrits, plusieurs dizaines de milliers qui nous écoutent. C'est positif pour les dentistes et les hygiénistes et les dentistes qui savent à quel point c'est important d'avoir des soins dentaires. C'est positif aussi pour le gouvernement du Québec. Ça n'empiète pas sur ce qui existe déjà en matière d'assurance dentaire de la part du gouvernement du Québec. Ça étend à zéro coût la couverture et des soins et de la population pour les programmes d'assurance dentaire. Et ça fait en sorte que ça réduit aussi les coûts de santé. Beaucoup des gens qui nous écoutent, qui retardent leur accès à des soins dentaires, se retrouvent à la salle d'urgence, à la salle d'opération, avec des coûts pour le soin de santé du gouvernement du Québec encore plus élevés.
C'est-à-dire que vous débarquez dans la gestion et l'offre des services. C'est-à-dire que le fédéral a décidé, puis vous avez le droit là, de dire, ben moi, non seulement je paye, mais en plus, je crée mon système, je crée mon régime d'assurance dentaire, mon régime d'assurance médicaments, puis les gens vont pouvoir y adhérer. C'est-à-dire qu'habituellement, la santé, les services offerts par la province, par le Québec, puis le fédéral contribuait. Là, on a un nouveau mode.
Ben, il n'y a pas de chicane de compétences ici.
Ben, un peu,
ça,
oui.
Ça ne réglemente pas les compétences, les professions. Il n'y a pas de réglementation de qui peut être dentiste, qui peut être hygiéniste ou denturologue. Deux, ce sont des choses qui se font depuis des décennies par les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance paient depuis des décennies les dentistes et les hygiénistes pour des soins de santé qui sont couverts par ces régimes d'assurance. Puis trois, c'est un régime public, à nouveau, qui n'empiète pas sur ce qui se fait déjà et qui complète à zéro coût pour le gouvernement du Québec la couverture des soins et des gens qui ont besoin de ces soins dentaires pour éviter d'être malades.
Non, mais j'allais vous dire, M. Duclos, en terminant, là, il est clair que depuis un an ou deux, il y a un empiètement sur un paquet de territoires, un paquet de dossiers. Et quand je vois les ministres du Québec qui passent leur temps à écrire à leur vis-à-vis au fédéral, dites-moi pas qu'il n'y a pas un changement de tendance depuis ces dernières années qui consiste à dire on va se mêler des affaires, on débarque là.
Et c'est normal, M. Arcan, qu'il y ait des conversations difficiles entre les gouvernements, parce que c'est difficile pour ceux qui nous écoutent aussi. Quand on parle de coût de la vie, les problèmes de la classe moyenne, les questions de logement, l'immigration, les soins de santé, tout ça, ce sont des choses qui nous affectent tous et toutes comme citoyens. Et c'est normal que les gouvernements fédéral et provincial doivent travailler ensemble pour aider les gens de la classe moyenne, puis tous ceux qui travaillent fort pour en faire partie, puis lutter contre la pollution, puis faire en sorte qu'on respecte les droits de tous et de toutes. Dans un monde où c'est pas partout pareil, on ne le voit pas partout sur la planète. Là. On peut toujours dire que ça va mal au Canada, mais quand on regarde ailleurs, ça pourrait aller beaucoup moins bien. Et la raison pour laquelle ça va bien au Canada, c'est que les gouvernements travaillent de manière acharnée pour prendre soin des gens qui nous écoutent.
En terminant, êtes-vous favorable à ce que le Québec récupère tous les pouvoirs en matière d'immigration?
Ben, écoutez, à nouveau, c'est une question à poser à mon collègue, M. Miller.
Vous êtes un ministre et député du Québec, là, quand même.
Donc, la réponse ultime, c'est celle de mon collègue qui est importante. Et ceci étant dit, le gouvernement du Québec a déjà beaucoup, beaucoup de pouvoir en immigration. Toute l'immigration économique, c'est le gouvernement du Québec qui la gère. L'immigration temporaire des travailleurs temporaires étrangers, c'est le gouvernement du Québec qui a le dernier mot, qui peut déterminer si un travailleur temporaire qui va travailler pour une industrie, d'un entrepreneur qui nous écoute, va pouvoir venir au Québec. Tout ça, c'est de la responsabilité partagée, oui, mais responsabilité, entre autres, du gouvernement du Québec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de...
Mais le financement ne suit pas, visiblement. Là. En tout cas, vous n'entendez pas sur le financement de tout ça. Là. Vous me dites que j'ai le pouvoir, mais je n'ai pas l'argent.
Ben, c'est parce qu'on parle souvent du financement additionnel qui est demandé, mais on ne parle peut-être pas souvent du financement déjà existant. Il y a 700 millions de dollars par année qui est envoyé au gouvernement du Québec pour financer les services d'intégration en matière d'immigration. Ça, c'est plus que la part d'immigration qui va au Québec. Donc, le gouvernement du Québec le sait très bien. C'est une entente qu'on ne va pas renégocier. On sait qu'elle est favorable au gouvernement du Québec, cette entente de transfert de 700 millions de dollars. Mais on sait aussi que le gouvernement du Québec subit des pressions, comme toutes les autres provinces, en matière d'accueil des demandeurs d'asile, en particulier au cours des dernières années. On a vu ce qui s'est passé. Il y aura toujours plus de travail à faire. Et l'important, c'est de le faire de manière collaborative.
OK. Merci, M. Duclos. Bonne journée.
Merci. Bonne journée à tout le monde.
Jean-Yves Duclos est le ministre des Services publics et Approvisionnement Canada.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, c'est pour le moins particulier ce qui s'est passé dans les derniers jours au palais de justice dans le dossier de l'ex-juge, quand même, Delisle, concernant la mort de sa femme. En résumé, on se retrouve avec un accusé qui plaide coupable, mais il y a quand même deux versions des faits. Radio-Canada nous a appris hier qu'une enquête demandée par le ministre de la Justice, David Lametti, à l'époque, avait conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur judiciaire dans le dossier. Mais malgré tout, on avait ordonné donc que le dossier soit repris devant les tribunaux. J'en parle ce matin avec deux avocats, les deux procureurs qui ont piloté le dossier de l'ex-juge de Lille, Maître François Godin. Maître Godin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Et Maître Julien Beauchamp de la Liberté. Maître la Liberté, bonjour.
Oui, bonjour.
Lequel des deux, je ne sais pas, peut me répondre à ça, là. Mais comment on peut convenir d'une entente quand on a deux versions des faits sur le même événement? La version du juge et celle de la couronne, on n'est pas à la même place.
En fait, ce qu'on doit savoir, monsieur Arcand, c'est que juridiquement et factuellement, lorsque les crimes correspondent, on peut, même si on ne s'entend pas sur la trame factuelle, tant que les faits des deux parties correspondent juridiquement à un homicide involontaire, comme c'est le cas de M. Delisle, le juge peut quand même entériner le plaidoyer. Alors, la version de M. Delisle est la nôtre, on s'entendait pas, mais juridiquement, dans les deux cas, c'est un homicide involontaire coupable. Mais oui, je suis d'accord avec vous qu'habituellement, les parties présentent des trames factuelles communes, mais c'était pas le cas dans le cas de M. Delisle.
OK. L'autre question est très simple pour le bénéfice des auditeurs. Selon vous, la femme du juge Delisle est morte comment? Et à cause de qui?
Ben c'est ça. Mais selon nous, quand on a mentionné à la cour hier qu'on maintenait que si on faisait un deuxième procès, M. Delisle pourrait être déclaré coupable de meurtre au premier degré, ben vous comprenez que selon nous, c'est M. Delisle qui a tiré. Mais dans l'entente que nous avons fait, si on arrive dans la salle de cour, on dit c'est M. Delisle qui a tiré, ça devient un meurtre, et là on fait un procès. Mais la perspective de ce procès-là était totalement utopique, vu l'âge de monsieur, vu le fait qu'on était devant la Cour suprême, et là il fallait qu'on prenne une décision de savoir est-ce qu'on continue le dossier ou pas, et c'est ce que j'ai mentionné hier dans le cadre des intérêts supérieurs de la justice.
OK, vous êtes encore convaincu qu'il est l'assassin, mais vous dites, rendu à son âge et tout ça, on pourra pas avoir un procès, puis on va s'entendre pour comme fermer le dossier.
Ben, c'est-à-dire que on s'est entendu, que quand M. Delisle a plaidé coupable hier, ce qui est important de retenir, c'est qu'il a plaidé coupable d'avoir causé la mort de sa femme. Et causer la mort de sa femme, c'est un homicide involontaire coupable. Et nous, quand je vous parle des intérêts supérieurs de la justice, c'est que M. Delisle, qui se prétend victime d'une erreur judiciaire, a plaidé coupable hier à un crime extrêmement sérieux, extrêmement grave, et il a reçu l'équivalent d'une peine de près de 9 ans de prison. Alors, quelqu'un qui s'est dit victime d'une erreur judiciaire puis qui plaide coupable à un homicide involontaire coupable après, vous ferez vos calculs à savoir est-ce qu'il y a eu erreur judiciaire ou pas.
Ben justement, en parlant d'erreur judiciaire, l'ex-ministre de la Justice, M. Lametti, s'est basé sur un rapport pour ordonner un nouveau procès pour le juge. Or, dans ce rapport qu'on a pu lire hier, on constate qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire. Pouvez-vous m'expliquer ça? Comment ça se fait qu'on a un nouveau procès si on a demandé un rapport puis qu'on dit qu'il n'y a pas d'erreur?
Effectivement, M. Arcand, la lecture aussi que le poursuivant faisait du rapport était qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire. Et c'est pour ça que nous avons décidé de réaccuser M. Delisle au moment où le ministre de la Justice a ordonné le nouveau procès. C'est une prérogative du ministre de la Justice du Canada d'ordonner des nouveaux procès normalement lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'est probablement commis une erreur judiciaire. Et évidemment, comme vous l'avez mentionné, là, notre lecture étant celle où il n'y avait pas d'erreur judiciaire relevée par le comité d'experts commandé par le ministre. Et donc, nous sommes adressés deux fois plutôt qu'une auprès du ministre de la Justice du Canada pour obtenir des précisions, pour éviter, s'il y avait eu erreur judiciaire, éviter évidemment de recommettre les mêmes erreurs ou éviter de replacer M. Delisle dans une situation où ses droits avaient été violés, par exemple. Alors, malheureusement, le poursuivant n'a pas obtenu de précision et c'est pour ça que nous sommes allés de l'avant en réaccusant M. Delisle et évidemment, bien, comme vous le savez, hier, en obtenant son plaidoyer de culpabilité et un homicide involontaire.
OK, mais c'est parce que ça demeure très flou pour, je pense, les auditeurs aussi, là. C'est-à-dire qu'on a un rapport qui nous dit qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. Le ministre de la Justice utilise un pouvoir, ce qu'il fait très rarement, puis ordonne un nouveau procès. Si on avait conclu qu'il y avait eu des erreurs, on aurait pu comprendre. Mais c'est parce que, vous me corrigerez, là, il y a 12 membres du jury qui l'ont reconnu coupable. La Cour d'appel l'a reconnu coupable, puis la Cour suprême l'a reconnu coupable.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et non seulement nous, on ne comprend pas la décision du ministre, mais en plus, on a demandé ce qu'on a appelé le rapport suisse. Donc, on a demandé d'actualiser un rapport en 2022. Et en 2022, le rapport supporte nos prétentions. Alors, nous, c'est une incompréhension totale. Et la position du poursuivant est à ce moment-là très difficile parce que il y a un homme qui a été déclaré coupable d'un meurtre au premier degré. Le système judiciaire a fonctionné. On s'est rendu jusqu'à la Cour suprême. Et là, le ministre dit, je leur donne un nouveau procès, puis on a le rapport qui ne va pas dans ce sens-là. Alors, notre position est extrêmement difficile parce qu'on réaccuse quelqu'un d'un meurtre au premier degré. On est convaincu qu'on a la preuve. En 2022, on a toujours cette preuve-là. Et on est les officiers de justice. Puis on a le ministre qui dit, peut-être qu'une erreur judiciaire s'est produite, mais personne ne la connaît, cette erreur judiciaire. Et lorsqu'on pose la question à tout le monde, incluant l'avocat de M. Delisle, il n'est pas capable non plus, lui aussi, de cibler l'erreur.
Maître Godin, par exemple, est-ce que vous comprenez pourquoi il a refusé de témoigner? Pourquoi il a refusé de donner sa version?
Chacun peut avoir son opinion là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a M. Delisle qui le sait et son avocat qui est Maître Larochelle. Nous, on n'a pas de contact avec M. Delisle, puis on peut pas lui parler de ça au niveau de la préparation de sa défense. Maintenant, chacun peut spéculer pourquoi. Est-ce qu'il pensait que la preuve du ministère public n'était pas suffisamment forte, par exemple, lors du premier procès? Est-ce que son avocat pensait qu'il avait réussi à soulever un doute raisonnable? Je l'ignore. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Maître Larochelle ou à M. Delisle. Mais tout le monde peut spéculer, mais nous, on n'a pas de contact directement avec lui par rapport à ça.
OK. J'aimerais savoir qui a amorcé, j'allais dire, le rapprochement entre la défense et la poursuite dans ce dossier-là. Ce sont eux qui vous ont contacté ou vous qui les avez contactés?
C'est ni l'un ni l'autre, c'est la Cour supérieure. Lorsque le dossier est revenu devant la Cour supérieure au début décembre, les juges de la Cour supérieure offrent ce qu'on appelle des séances de facilitation. Donc, c'est une offre qui vient de la Cour. Il y a un juge qui est désigné par la Cour. Les parties se rencontrent de façon confidentielle. Et là, on est capable de négocier avec un juge qui nous écoute, qui nous entend. Et c'est le processus de facilitation, mais c'est la Cour supérieure qui l'initie. Mais évidemment, il faut que les deux parties soient d'accord pour y aller, parce que si une partie ne veut pas y aller, ça donne rien. Mais à partir du moment qu'il y a une ouverture des deux côtés, ça vient de la Cour.
OK. L'autre question, s'il n'avait pas été aussi vieux, puis on l'a vu là, vraiment malade, en tout cas santé affectée, est-ce qu'on aurait eu le droit à ce même genre de conclusion?
Non. En fait, évidemment, l'âge de l'accusé est un facteur déterminant dans l'opportunité d'accepter des plaidoyers de culpabilité à des infractions moindres. Mais dans un contexte, je vous dirais, davantage normal ou dans une durée de procédure normale, évidemment que le poursuivant, comme on l'a mentionné hier, on était toujours convaincu du meurtre au premier degré. Alors, on aurait évidemment poursuivi le processus normal comme on le fait avec n'importe quel citoyen. Également, évidemment, l'âge de l'accusé est une chose, mais l'attitude à subir son procès est également une autre chose. Alors, effectivement, là, factuellement, on a pu voir que M. Delisle, à son âge, à l'âge avancé où il avait, Bon, il avait certains signes avancés, mais le poursuivant tenait évidemment à obtenir une conclusion du procès, alors évidemment que l'accusé était physiquement et mentalement apte à subir son procès.
OK. En terminant, Maître Godin, Maître La Liberté, m'avait dit tantôt, pour nous, on est convaincus qu'il a tiré, il a assassiné sa femme. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça?
Pourquoi il a fait ça? Non. À l'époque, ben, en fait, il y a juste lui qui le sait, là. Mais vous savez, à l'époque, la preuve qu'on avait présentée, c'était que monsieur avait une autre femme dans sa vie. Il avait peut-être un mobile financier également. Il y avait une preuve qui avait été faite. Là. Il y avait une notaire qui avait témoigné à cet effet-là. Ça, c'était nos prétentions à nous. Mais c'est les prétentions qu'on avait avancées au premier procès.
Mais est-ce que vous croyez ce qu'il a dit, notamment qu'il voulait abréger les souffrances de sa femme, que c'est à la demande de sa femme qu'il a posé le geste?
Non, on ne croit pas ça.
Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. Maître François Godin, Maître Julien Beauchamp, La Liberté, ce sont les deux procureurs dans le dossier, le procureur de la Couronne, là, de la saga de l'ex-juge Jacques Delisle qui a passé quelques heures en prison et qui est maintenant à nouveau un homme libre.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Avec la vague de féminicides qu'on a connue, Québec s'est engagé assez rapidement à permettre la construction de nouvelles maisons d'hébergement pour les femmes, pour les enfants qui sont victimes de violences conjugales. Or, on a entendu la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, dire hier que les projets proposés coûtaient trop cher, que ça représentait 900 000 $ la porte. Je serais porté à dire que c'est à peu près l'équivalent pour la maison des aînés, mais ça, c'est une autre discussion. Et on se dit, pourquoi ça coûte si cher? Est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a des négociations? Maude Pontel est avec nous. C'est la coordonnatrice générale de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour ces femmes et enfants victimes de violences conjugales. Madame Pontel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, pourquoi 900 000 $ la porte? Ça vient d'où? Ça sort d'où, ça?
Alors, écoutez, c'est pas un chiffre exact. Hein. On a différentes maisons d'hébergement dans différentes régions du Québec. Donc, c'est des choses à prendre en considération quand on parle du coût la porte. D'ailleurs, je tiens à le dire, on n'aime pas parler du coût la porte quand on parle des maisons d'hébergement. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment, bien évidemment, si on compare un logement dans du logement social et un logement dans une maison d'hébergement, je dirais que c'est approximativement la même chose. Là, ça se ressemble beaucoup. Mais quand on parle des maisons d'hébergement, il y a des dispositifs de sécurité. Il y a des espaces d'intervention, dispositifs de sécurité parce qu'on doit protéger des femmes et des enfants qui fuient des situations de violence, qui sont à risque parfois d'homicide. Et quand on parle d'espaces d'intervention, c'est parce que ces personnes-là ont besoin de se reconstruire après des situations aussi traumatisantes. On va parler aussi de tout ce qui va être durabilité. Dans une maison d'hébergement, par exemple, de 10 places, c'est pas juste 10 femmes qui vont être hébergées sur une année, c'est au moins une centaine. Donc, il va y avoir beaucoup de roulements. Donc, quand on prend tous ces éléments-là en considération, une chance que nos maisons d'hébergement coûtent plus cher que du logement social, parce que notre mission, c'est de protéger des femmes et des enfants qui viennent de vivre des situations de violence conjugale.
Je vais essayer de comprendre la chronologie.
Oui.
Vous avez fait des démarches, j'imagine, pour rencontrer la ministre responsable, pour dire voici, parce que quand arrive une vague de féminicides, on sent qu'il y a une volonté politique qui peut-être est plus explicite. Est-ce que vous avez été convoqué par la société d'habitation, par la ministre, pour dire, écoutez, voici comment le projet doit se développer?
Alors, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que quand Monsieur Legault a fait appel, là, suite à, durant la pandémie, la vague de féminicides, je dirais que tout le monde s'est mobilisé sur le terrain. Nous, on le voyait concrètement, là. Les maisons débordaient, on n'avait jamais vu autant de demandes d'aide pour de l'hébergement ou de l'aide de soutien. Et donc, il y a eu une mobilisation très rapide sur le terrain de la part de nos membres à travers les trois associations provinciales. Donc, on nous a dit, il va y avoir de l'argent pour de la brique et des services. Donc, ce qu'on a vu très rapidement, c'est qu'au niveau des services, oui, l'argent est arrivé. Donc, au niveau du ministère Santé et Services Sociaux, on a vu de l'argent arriver pour justement offrir des services aux femmes et aux enfants. C'est sûr que ça va se mettre en place plus rapidement que de la construction de maisons d'hébergement. Cependant, quand on nous a dit l'argent gouvernement va arriver, c'est certain qu'on a commencé à travailler avec la Société d'habitation du Québec. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que, OK, le gouvernement s'est engagé, on va aller de l'avant. Donc, il y a eu des risques calculés, donc des acquisitions de terrain, de bâtiments. On a commencé à avoir des plans d'architectes, etc. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans le bon programme de financement parce qu'on nous avait mis dans un programme de financement qui touche au logement social. Mais dans un logement social, il n'y a pas lieu d'intervention, il n'y a pas des dispositifs de sécurité comme on a besoin quand on doit dealer avec des ex-conjoints violents, il n'y a pas de salle communautaire, il n'y a pas de buanderie collective, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est sûr que rapidement, on nous disait, ben là, écoutez, ça coûte cher, ça, on ne peut pas le prendre en compte, tout ce qui est du domaine non résidentiel, on ne peut pas le payer.
Juste une parenthèse, pourquoi il faut aménager dans chacune des chambres des entrées pour laveuses sécheuses?
Alors,
une buanderie ferait l'affaire, là?
Ben, écoutez, oui, c'est ce qu'on a dit. Quand on parle de laveuses sécheuses, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, au niveau de programmes, des programmes qu'on nous impose en ce moment, que ce soit Accès Logis ou FAC, le programme d'habitation abordable du Québec, vu que c'est des programmes de logements sociaux, on veut des laveuses sécheuses dans chaque logement. OK? Sauf que, effectivement, quand on parle de maison d'hébergement, si je prends par exemple une maison d'hébergement de 10 unités, ça veut dire 10 possibles dégâts d'eau à gérer. Ça veut dire aussi, nous, est-ce qu'on a les moyens d'avoir des laveuses sécheuses dans chaque logement? Faut savoir que les femmes n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des laveuses sécheuses et les maisons d'hébergement n'ont pas les moyens. Bien évidemment, on va fournir la petite cuillère, les draps, les serviettes, etc. Mais notre priorité, ça va pas être une laveuse sécheuse, sachant qu'on peut en avoir au moins une sur chaque étage.
Mais est-ce que vos vis-à-vis de la société comprennent ça ou s'ils sont enfermés dans une logique de programme?
Alors écoutez, ça a été beaucoup de négociations parce qu'on leur a dit, attendez, si on met des tuyaux de laveuse sécheuse, mais que nous on vous dit on n'en veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Camouflez-les. OK, fine. Donc, on va les camoufler, on va installer des tuyaux de laveuse sécheuse, on va les camoufler. Et pourquoi? Parce que potentiellement, il y aurait reprise du bâtiment si jamais le bâtiment change de mission. Je veux dire, les maisons d'hébergement existent depuis 30-40 ans. Elles sont implantées dans les communautés. On va pas déménager comme ça du jour au lendemain, surtout quand il y a des installations comme ça. Donc, quand on parle d'installer des tuyaux de laveuse sécheuse et de les camoufler, c'est à coup de 10 000 $ la shot par unité d'hébergement. Donc imaginez, sur un 14 logements, on parle de 140 000 $.
Il y a eu des rencontres hier, ce que j'ai compris. Oui. Vous étiez partie prenante à ça, là. Est-ce que le bon sens commence à l'emporter, là?
Écoutez, on a eu une rencontre donc avec le cabinet de la ministre de l'Habitation, avec la direction de la société de la SHQ, de la Société d'habitation du Québec. C'est sûr que au départ, la rencontre devait durer 1 heure, elle a duré 2 heures. Donc on s'entend pour dire que on a été capable vraiment d'expliquer nos points. Je pense qu'on a été entendu. C'est sûr qu'il y a quand même certains signaux encourageants, mais on n'est pas encore sorti du bois. Hein. Je pense que là, il faut qu'il y ait vraiment une dynamique de travail qui s'installe, pas juste pour parler, pas juste pour négocier. Il faut qu'on soit capable de débloquer les projets qui sont à l'arrêt présentement. Puis ça, c'est notre priorité. Donc, on va voir de l'autre côté comment est-ce que les choses vont s'actionner.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Maude Pontel est la coordonnatrice générale de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Merci. Bonne journée. Maintenant, avec Jean-François Lépine, on va regarder ces autres événements sur la scène internationale tout aussi importants. Bonjour, Jean-François.
Bonjour, Paul.
Alors, Israël, finalement, qui a accepté d'ouvrir de nouvelles routes d'approvisionnement vers le nord de Gaza, où on le sait, les gens ont faim. Mais c'est quand même très, très peu par rapport aux besoins de la population.
Ouais, c'est une goutte d'eau et ça n'empêche pas des gens de plus en plus, des représentants de pays dans le monde, comme cette semaine au Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, de dire que de plus en plus, Israël utilise la famine comme arme de guerre. C'est une accusation extrêmement grave, mais on peut pas interpréter autrement la situation parce que même si, Paul, on parle d'une ouverture d'une route maritime, là, j'en ai parlé plus tôt cette semaine, entre l'île de Chypre et Gaza. Il y a un bateau, d'ailleurs, qui devrait arriver là au moment où on se parle sur les côtes de Gaza avec une barge remplie de vivres pour les Gazaouis. Même si on fait aussi des parachutages de vivres, tout ça est beaucoup trop lent et même beaucoup trop dangereux dans le cas des parachutages de vivres. On l'a vu dans des scènes ces derniers temps à Gaza. Tout ça est trop lent, trop dangereux pour résoudre la crise humanitaire à Gaza qui affecte des centaines de milliers de gens, surtout dans le nord du pays où les gens sont coupés de tout. On entend d'ailleurs, Paul, partout dans divers médias du monde, des témoignages de gens sur place à Gaza, des citoyens, là, des gens, des diplômés d'université, des gens qui normalement ont accès à tout et qui disent que, par exemple, ils mangent de la nourriture pour animaux, on utilise la moulée pour les animaux pour faire du pain parce qu'on n'a rien d'autre. Il y a des récits de gens qui passent des heures et des heures par jour à sortir de leur maison, à aller tenter de chercher quelque chose pour avoir au moins un repas par jour. On le sait, en plus, c'est le Ramadan, donc c'est une période extrêmement difficile pour la population. Et la grande question que tout le monde demande, des organisations humanitaires en particulier, pourquoi Israël ne laisse pas tout simplement entrer les fameux camions qui attendent par centaines? On dit qu'il en faudrait un minimum de 300 par jour, Paul, pour assurer une quantité minimale de nourriture à l'ensemble de la population de Gaza. C'est la route la plus simple, mais Israël refuse encore de le faire ou le fait avec parcimonie. Hier, tu l'as dit, l'armée israélienne a laissé 31 camions par le nord de la bande de Gaza pour justement aider cette population-là qui est coincée parce que l'aide vient surtout du sud. Le peu de camions qui entrent venait surtout du sud, donc pour atteindre la majorité de la population qui est là actuellement dans le sud. Mais on oublie les gens du nord. Ben, au moment où ces camions-là sont entrés, il y a eu des émeutes, des échauffourées. Et il y a une vingtaine de civils palestiniens qui sont morts, 120 blessés, quand les premiers camions sont arrivés et où, comme ça se passe toujours, la foule est tellement anxieuse, veut tellement de la nourriture que les gens se ruent sur les camions. Et puis, c'est la catastrophe. Les Israéliens disent qu'il y a des hommes armés palestiniens qui ont tiré sur la foule de gens affamés qui cherchaient à vider les camions. Est-ce que c'est vrai? Tout ça, évidemment, il y a, encore une fois, je rappelle toujours, Paul, qu'il n'y a pas de journalistes de l'extérieur qui peuvent entrer à Gaza. Ce sont des journalistes palestiniens sur place quand ils arrivent à émettre ou à faire des reportages. Donc, c'est extrêmement difficile de vérifier de façon indépendante ce qui se passe sur place. Mais les citoyens de Gaza sont désespérés, d'où ces accusations voulant que Israël cherche délibérément à affamer la population pour faire pression sur le Hamas parce que effectivement, il y a une impasse dans les négociations pour un cessez-le-feu. Il y a un politicien juif américain, le plus important politicien juif américain, qui a un peu surpris tout le monde hier, le chef de la majorité démocrate au Sénat, le sénateur Chuck Schumer, un défenseur habituel d'Israël, comme il l'a dit lui-même, qui a fait une déclaration choc en demandant au premier ministre Netanyahou de déclencher au plus tôt des élections anticipées. Il a dit de Netanyahou, il a perdu la tête. Il est un obstacle à la paix en priorisant sa survie politique à lui, au détriment des intérêts d'Israël. C'est une déclaration extrêmement grave. Le président Biden avait dit de Netanyahou un peu plus tôt lui-même, il nuit plus qu'il n'aide, mais jamais le président Biden n'avait demandé le départ de Netanyahou. Là, c'est fait par un des politiciens les plus seniors aux États-Unis et surtout un politicien de religion juive, partisan d'Israël. Alors là, on voit à quel point la situation est rendue à un point là qui face à laquelle il y a de plus en plus d'intolérance de la part de politiciens ou de gouvernements dans le monde.
Et le Canada dans tout ça?
Ben, Madame Joly a fait une tournée au Moyen-Orient cette semaine. On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais elle-même, par exemple, elle a promis que le Canada participerait au financement de ce fameux corridor d'aide maritime. Là, comme je l'ai dit, il y a un premier bateau espagnol qui est arrivé avec une barge remplie de vivres pour les Gazaouis. mais ce n'est que le début. On attend la construction par les États-Unis d'un port flottant. Ça va prendre des semaines. Et Mme Joly, au lieu de dire, par exemple, ouvertement, le Canada, au lieu de dire « ouvrez les portes aux camions, faites ce que les organismes humanitaires veulent », on dit au contraire « on va aider ce corridor d'aide maritime qui va prendre des mois à s'établir vraiment et qui ne résoudra pas les problèmes parce qu'il sera peut-être même trop tard quand il sera vraiment fonctionnel ». Donc, on se demande un peu quelle est la position du Canada, qui est toujours un peu en retard dans tout ça. On le sait, entre autres, le Canada a participé à tout ce mouvement de pays qui ont coupé leur financement à l'Organisation des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens pour éventuellement revenir sur cette position-là, quand l'ensemble des pays a commencé aussi à revenir sur leur position parce que l'enquête n'a pas prouvé ce que les Israéliens disaient, c'est-à-dire que l'UNRWA était noyauté par des terroristes du Hamas. Donc, le financement va reprendre, mais on a l'impression que le Canada, depuis le début de ce conflit-là, il y a plus de 5 mois, est toujours un peu à la remorque des autres et n'a pas de position claire face au conflit en Israël.
Maintenant, les Russes ont commencé à voter. Le scrutin se déroule jusqu'à dimanche. Bien sûr, il n'y aura pas de surprise. Vladimir Poutine sera réélu parce que, de toute façon, il a, pour ainsi dire, neutralisé toute forme d'opposition.
Oui, même si, Paul, le pays est grand, hein, on parle de 29 régions qui vont voter, 11 fuseaux horaires. Même dans les territoires qui ont été annexés par la Russie dans l'est de l'Ukraine, le président Zelensky, le président ukrainien, accuse les Russes de forcer les Ukrainiens sur place à voter contre leur gré. Ça aussi, c'est à vérifier, mais c'est, semble-t-il, ce qui se passe selon les Ukrainiens. C'est une élection... tu l'as évoqué, complètement factice. Écoute, il y a 3 autres candidats qui se présentent contre le président Poutine. C'est 3 députés de la Douma. La Douma, c'est le Parlement russe dont on dit que c'est comme une sorte de parlement pour entériner les décisions de Poutine. C'est vraiment un parlement complètement fidèle à Poutine. Donc, c'est 3 députés de la Douma qui se présentent et qui, tous les 3, appuient la guerre en Ukraine, sont en faveur de la censure des médias, donc de la répression actuelle en Russie, sont même en faveur de l'adoption de lois contre l'homosexualité. Là, on voit un peu le genre de personnages qui se présentent. Alors, c'est essentiellement symbolique. Le président Poutine, à 71 ans, après 25 ans au pouvoir, va gagner parce qu'il a créé évidemment toutes les conditions. On évoque beaucoup la mort, la disparition encore inexpliquée de Alexei Navalny dans sa prison de la région de l'Arctique russe.
Mais est-ce que tu crois que les Russes vont se déplacer, vont aller voter?
Ben c'est la grande question. En fait, ce qu'on va voir avec toute la répression qu'il y a eu, la décision des organismes électoraux russes de bloquer des candidats qui étaient, par exemple, contre la guerre, ce qu'on va mesurer dans cette élection-là, c'est la participation des électeurs. Parce qu'en fait, c'est une sorte de référendum, c'est ce qu'on peut dire, sur Poutine. Il va vouloir, lui, beaucoup de gens se déplacent le plus possible. Après 2 ans de guerre, une guerre qui devait durer quelques semaines à l'origine, qui a coûté des centaines de milliers de vies de Russes, et qui a fait des tonnes de blessés. C'est une forme de référendum. Et d'ailleurs, l'opposition, entre autres l'épouse d'Alexei Navalny, demande à ce que les gens, dimanche, parce que le vote va durer 3 jours, que dimanche, en milieu de journée, tous les opposants se lancent, envahissent les bureaux de vote. Donc, ça serait une manifestation physique de l'opposition, le dernier jour du vote, pour montrer qu'ils sont là et qu'ils viennent voter contre cette espèce de consultation populaire bidon. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les policiers vont les laisser faire? Mais c'est sûr que ce que les analystes vont voir, c'est le taux de participation. Si les gens ne vont pas voter, c'est un signe et ça ne fera pas plaisir à ce personnage qui, puisque la Constitution le permet, s'il décide de se présenter, parce qu'il a le droit de se présenter pour 2 autres mandats jusqu'en 2036, s'il régnait Poutine jusqu'en 2036, ça serait le règne le plus long d'un politicien depuis l'établissement du communisme en Russie. Staline avait régné pendant 29 ans, puis c'est lui qui avait le record. Donc c'est un exercice factice, mais qui vaut la peine d'être regardé de près quand même.
Et ce matin, tu attires notre attention sur un sujet dont on parle pas assez, c'est-à-dire toutes ces tensions qui affectent le commerce, le transport maritime.
Oui, parce que c'est extrêmement fragile, Paul. Je vais aller assez rapidement, mais on l'a vu pendant la pandémie, hein, quand les ports du monde entier se sont mis à fermer à cause de la pandémie, quand les cargos aussi se sont mis à arrêter parce que les équipages étaient malades. On l'a vu, les approvisionnements ont cessé. Les prix des containers, par exemple, ont monté en flèche. Ben là, on est dans une situation où il y a des conflits régionaux qui menacent le transport maritime. Un exemple très clair, le canal de Suez, hein, c'est en Égypte. Le canal de Suez, c'est le lieu de passage de 15 à 20 % du commerce maritime mondial. Eh bien, le canal, depuis que les Houthis, par exemple, le mouvement Houthi au Yémen, décide de s'attaquer aux cargos, aux navires cargos qui passent par la mer Rouge et s'en vont vers le canal de Suez, bien, le canal de Suez ne fonctionne qu'à 50 % de sa capacité depuis le début de la guerre à Gaza. C'est très important. Le commerce maritime a d'abord été affecté là, quand la Russie a envahi l'Ukraine. On se souvient quand les Russes ont bloqué l'exportation de céréales de l'Ukraine en mer Noire. Donc, le commerce important de la mer Noire qui passe à travers le détroit des Dardanelles et qui s'en va par la Méditerranée vers le reste du monde a été bloqué pendant des mois et des mois. Là, ça a un peu repris. Les Ukrainiens ont trouvé une façon d'exporter leurs grains, mais la mer Noire a été affectée. La mer Baltique aussi, la circulation est extrêmement difficile dans le nord à cause aussi de la guerre en Ukraine. Donc, tout ça a provoqué, par exemple, une hausse du prix des céréales importante dans le monde qui dure encore. Et là, les gens se disent, qu'est-ce qui arriverait, Paul, si un conflit éclatait, puis on sait que ça peut éclater éventuellement, entre la Chine et Taïwan? Le détroit de Taïwan, c'est un des pôles de transport maritime les plus importants de la planète. S'il était bloqué lui aussi, encore une fois, on en subirait les conséquences dans notre vie quotidienne. Et puis, on ajoute à ça, pour des raisons complètement différentes, qui sont des raisons environnementales, la diminution aussi de la circulation dans le canal de Panama. Ça, c'est des questions vraiment de réserve en eau, d'une sécheresse autour du canal de Panama qui fait qu'on ne peut plus alimenter le canal en eau parce qu'il faut garder un niveau permanent entre l'Atlantique et le Pacifique pour que le canal puisse fonctionner. Et là, on n'arrive pas à maintenir un niveau parce qu'il manque d'eau. Donc, le canal ne fonctionne pas à sa pleine capacité. Donc, je dis ça, Paul, pour montrer que on vit dans une situation géopolitique mondiale où, assez facilement, si les choses se détériorent, ben, le transport maritime devient un enjeu majeur qui, s'il ne fonctionne pas, peut affecter nos vies quotidiennes. Et je pense que c'est important de se souvenir de ça.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.